VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à Bangui. Bonjour à tous. En Angola, procès à huis clos pour Luati Berao, un opposant au régime de Luanda et 16 autres militants issus d'un mouvement de jeunesse. Ils avaient tous été arrêtés le 20 juin pour avoir demandé le départ du président José Eduardo Santos au pouvoir depuis 1979. Depuis son ouverture le 16 novembre, le procès se déroule dans la capitale angolaise, mais loin du centre-ville. Il n'est ouvert à la presse que par intermittence, en fonction du bon vouloir du juge. Les prévenus sont accusés par le ministère public de rébellion et de tentative de coup d'État et encourent entre 3 et 12 ans de prison. Le tribunal spécial africain qui juge l'ex-président tchadien, Hissène Habré, a entendu mardi le dernier témoin de ce procès qui se tient, je vous le rappelle, à Dakar, Eddy Sango.
Kagenge Bayeri Sangena, gendarme à la retraite, est la 93e et dernière personne à avoir témoigné devant les tribunaux depuis le début du procès le 20 juillet. Il a décrit M. Habré comme un homme qui contrôlait tout sous son régime. Sa déposition met fin à l'audition des témoins, experts et victimes, a déclaré Gberdao Gustave Kam, le juge burkinabé qui préside les chambres africaines extraordinaires. La suite du procès sera annoncée aujourd'hui après une réunion à huis clos des juges et du parquet. En détention depuis 2 ans et demi au Sénégal, où il avait trouvé refuge en décembre 1990, Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. La répression durant son régime, de juin 1982 à décembre 1990, aurait fait 40 000 morts. Habré risque la prison à perpétuité.
La Centrafrique attend les résultats du référendum de dimanche dernier et se prépare à des élections présidentielles et législatives le 27 décembre. Pour rendre les choses plus compliquées, après 2 ans de crise, le général Noureddine Adam, un chef de l'ex-rébellion des Séléka, a proclamé l'indépendance d'une république dite du Logon dans le nord du pays. Pour le général Mohamed Moussa Dafan, un autre leader de l'ex-Séléka à Bangui, cette proclamation est nulle et non avenue.
Ça, c'est de la folie. Vous savez, la Séléka est venue prendre le pouvoir ici et gérer le pouvoir pendant 9 mois. Les gens n'ont pas réussi à gérer le pouvoir de l'État pendant 9 mois et ils ont été chassés. Et maintenant, ils veulent demander la partition du pays. Pour faire quoi? Il y a déjà un État qui existait. Ils n'ont pas réussi à gérer les affaires de cet État-là. Mais est-ce qu'ils peuvent créer un nouvel État et mettre les structures d'un État démocratique en place? C'est impossible. Ça, c'est vraiment de l'utopie. Et les populations ont manifesté leur volonté. Elles sont sorties dans la rue et tout le monde a décidé d'aller voter et ils ont voté. Le dernier mot revient au peuple.
Le général Mohamed Moussa Dafan, un autre leader de l'ex-Séléka à Bangui. L'Organisation américaine de défense des droits de l'homme Human Rights Watch s'est alarmée aujourd'hui de la hausse du nombre d'enlèvements contre rançon dans l'est de la République démocratique du Congo. Human Rights Watch dit avoir confirmé l'enlèvement contre rançon de 172 Congolais et 3 étrangers depuis le début de l'année dans le sud-est de la province du Nord Kivu, en grande majorité dans le territoire de Rutshuru. Selon le communiqué, la plupart des enlèvements documentés par Human Rights Watch ont eu lieu dans les zones contrôlées antérieurement par le M23, mouvement du 23 mars, rébellion majoritairement Tutsi, soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, voisin de la RDC, et vaincu militairement en novembre 2013. Les autorités camerounaises exhortent les populations du nord du pays à s'enrôler dans les milices d'autodéfense pour lutter contre les islamistes nigériens de Boko Haram. Ces groupes jouent un rôle croissant dans la surveillance des mouvements d'individus suspects et l'interception de kamikazes. Manassé Aboya Ndong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala, explique l'engouement suscité par ces milices.
Depuis un bon bout de temps, on parvient quand même à détecter les bombes humaines, à les neutraliser. Et ça a un avantage de minimiser les morts, le nombre de morts. Aujourd'hui, dans la partie nord du Cameroun, il n'y a plus d'activité. Donc les populations n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations et sont naturellement plus intéressées à participer à ces groupes d'autodéfense qui leur permettent quand même de s'occuper et d'essayer de trouver les moyens de survie en s'impliquant aux côtés des forces de maintien de l'ordre à détecter les kamikazes, les bombes humaines. Donc ça donnait de l'emploi de manière ponctuelle aux populations et ça rend quand même satisfaction aux autorités administratives qui trouvent des alliés susceptibles de les aider à contrer justement ces attaques venant d'un ennemi invisible, furtif, qui se cache aux frontières et attend le moment d'inattention pour frapper.
Manassé Abouya Ndong de l'université de Douala. Trois Ivoiriens soupçonnés d'avoir recruté des hommes au Libéria pour mener des attaques meurtrières en Côte d'Ivoire ont été arrêtés dans un camp de réfugiés au Libéria. Lionel Gaïma.
Ces arrestations ont eu lieu lundi dans le camp dit PTP à une quinzaine de kilomètres de Zouédrou, dans le sud-est du Libéria. Le camp géré par l'ONU abrite des Ivoiriens qui avaient fui la crise politico-militaire dans leur pays. Selon une source sécuritaire, quatre personnes avaient initialement été arrêtées, mais l'une d'entre elles s'est échappée. Les suspects tentaient de recruter des combattants pour mener des attaques en Côte d'Ivoire. En 13 ans, quelque 220 000 Ivoiriens avaient trouvé refuge au Libéria. La plupart sont rentrés d'eux-mêmes et plusieurs milliers sont restés dans les camps le long de la frontière. Cette zone est souvent le théâtre d'attaques meurtrières depuis plusieurs années. La plus récente, le 2 décembre, contre une position de l'armée ivoirienne, a fait 6 morts parmi les soldats et 4 parmi les assaillants.
11h06 à Abidjan.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Libye, la signature de l'accord de paix entre les gouvernements rivaux prévu ce mercredi a été reportée à demain jeudi. Les leaders des deux parlements ont rejeté l'accord préliminaire. C'est la première fois que Aguila Saleh et Nouri Abou Samen, respectivement président des assemblées rivales de Tripoli et de Tobrouk, sont réunis ensemble. Chacun d'eux a fait savoir la nécessité de trouver une solution libyenne à la crise sans pression de l'extérieur. L'Arabie Saoudite a promis d'investir 8 milliards de dollars en Égypte et d'apporter une aide pétrolière pendant 5 ans à ce pays qui connaît des difficultés économiques, selon les médias officiels. Cette annonce a été faite dans un communiqué commun publié au terme d'une visite du vice-prince héritier et ministre saoudien de la Défense, Mohamed Ben Salman, mardi au Caire. L'Arabie Saoudite a formé une coalition islamiste antiterroriste de 34 pays dont l'Égypte, le Pakistan et le Sénégal. Cette coalition sera dotée d'un centre de commandement basé à Riyad. L'ancien ambassadeur américain et analyste Herman Cohen explique ici l'activisme saoudien.
Tout ce qui se passe dans la région maintenant, c'est une guerre avec terroristes interposés. C'est une guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais en général, je crois que ce que l'Arabie saoudite fait maintenant, c'est à cause de la pression des États-Unis. Et vous voyez maintenant, beaucoup de monde commence à dire ici aux États-Unis que l'origine de tout ce terrorisme, Al-Qaïda, Taliban, Boko Haram, État islamique, ça vient d'Arabie saoudite. C'est l'idéologie wahhabiste, salafiste. Maintenant, l'Arabie saoudite commence à comprendre que c'est à eux, c'est leur responsabilité de lutter contre ça. Ce n'est pas les États-Unis.
L'ancien ambassadeur américain et expert en relations internationales, Herman Cohen, poursuit en Suisse des pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU pour tenter de mettre fin à la guerre qui ravage le Yémen. Mais sur le terrain, une trêve de 7 jours décrétée mardi pour accompagner les négociations a été violée par les rebelles qui ont tué au moins 15 soldats gouvernementaux. Ici aux États-Unis, 5e débat télévisé des candidats républicains à la présidentielle américaine de 2016. Les candidats, les uns après les autres, ont énuméré les menaces terroristes. Le bilan de ce débat avec le professeur James Cizer de l'Université de Virginie à Charlottesville.
Les candidats qui étaient importants restent importants. Peut-être que Christie a monté un peu par rapport à ce qui était le cas avant, parce qu'il s'est présenté assez fort. Rubio, il a été attaqué par les autres, mais il a tenu assez bien. Trump, je dirais que sa performance n'était pas très bonne, mais comme je disais, il a fait déjà, ça ne compte pas, il va donner un discours demain et tout le monde va parler de lui. Et puis le sénateur Cruz, qui est un adversaire assez important. C'est lui qui attend la possibilité que Trump va s'écrouler et il est là pour tenir toutes les voix de Trump.
James Cizer de l'Université de Virginie à Charlottesville. Et puis Moscou et Washington ont annoncé pour vendredi une réunion internationale cruciale pour la Syrie. La réunion aura lieu à New York. Un mot d'économie pour terminer. La Banque centrale américaine, la Fed, devrait prendre aujourd'hui la décision historique de relever ses taux d'intérêt après 7 années de politique à taux zéro. La décision devrait être prise à l'issue d'une réunion de 2 jours de son comité de politique monétaire. La décision est attendue ce soir et sera suivi d'une conférence de presse de la présidente de la Fed, Janet Yellen. Jean-Roger Billon, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'info dans 50 minutes avec Henri Francis. Pour ma part, bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. No time.